Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.
Notre vie s'invente ici est aujourd'hui à Lapanouse de Cernon pour mettre en lumière une action Natura 2000 sur une devèse de la commune. Cette action a été réalisée conjointement par l'État, la commune en concertation avec l'exploitant agricole et sur expertise du parc naturel régional des Grands Causses. Nous avons tout d'abord rencontré Claude Boissin, conseiller municipal à Lapanouse de Cernon, qui nous présente la commune sur laquelle il est élu.
Monsieur Boissin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal à Lapanouse de Cernon.
Effectivement.
Pouvez-vous en quelques mots nous présenter votre commune ?
Eh bien, nous faisons partie de la commune de Lapanouse de Cernon. 118 habitants. La commune est située sur une surface de 2287 hectares. On fait partie d'une intercommunalité, l'Arzac-Tampier, Corsé-Vallée. On réunit les communes de Cornuse, Bastide-Pradine, la Couverte-Orade, la Panouse de Cernon, le Clapier, le Vialapadejau, Manave-la-Tour, Saint-Maurice, Saint-Eulie-de-Cernon, Saint-Jean-de-Sépol, Saint-Jean-de-Vouel, Soquière. Elle se situe dans le sud d'Aveyron.
Et donc dans le périmètre du parc naturel régional des Grands Causses.
Dans le périmètre, on fait partie du parc naturel des Grands Causses.
Quel type d'activité économique existe sur la commune ?
L'agriculture.
Principalement.
Principalement avec trois exploitations.
Et ces exploitations, elles ont...
Quatre exploitations.
Ces exploitations, elles ont toutes le même type d'activité ou c'est diversifié ?
Non, c'est mouton pour Roquefort.
Brebis laitière. Ouais,
brebis laitière, Roquefort. Voilà.
Est-ce qu'il existe des services sur la commune ?
Aucun service.
De type poste ou...
Non, aucun service. La commune la plus proche, c'est la cavalerie. Cavalerie pour la poste, pour l'épicerie. Avec si une petite épicerie à Sainte-Eulalie, qui est un peu plus proche. Nous avons 5 associations sur la commune. Le comité des fêtes, dont font partie le trial. Chaque année, ils font le championnat du Forlep. Il y a la chasse. Ils viennent de se monter une association pour la course à pied, pour la course nature, dont la première aura lieu au mois de juin.
Juin 2014.
En 2013, le comité des fêtes a organisé un premier rassemblement de chevaux, qui a eu son succès. Donc, il est renouvelé en 2014 pour le week-end de Pentecôte. Nous-mêmes, on a monté une association il y a 2 ans, les Jardiniers du Cernon. Disons, dont le but est de réunir les gens autour d'une table, autour d'une soirée festive, avec un petit groupe de musique. On arrive à faire 6-7 manifestations par an. Ça fait 3. Pour la deuxième année, nous allons, en compagnie du comité des fêtes, nous allons organiser le réveillon, qui réunit quand même 85-90 personnes. Quand même, pour... Et tout ça car la commune, il y a 3 ans, a investi dans un bâtiment, la Jassa. C'est une ancienne bergerie, disons, en bordure du Cernon. Et donc, on a fait une salle des fêtes. Bon, il y a encore quelques bricoles à faire, enfin. C'est le principal qui manque, comme on dit. Mais on y arrive. Et grâce à ça, en fin de compte, les activités sont développées. Ça fait 2-3 ans que les activités sont développées sur combien ? Par rapport à avant, où il n'y avait que la fête. Maintenant, il y a plein de petites festivités qui se font grâce à cette salle. Puis une équipe à des gens qui en veulent un petit peu. Quoi.
Donc c'est une commune qui ne manque pas d'animation, en fait.
Sincèrement, ça fait 2-3 ans que ça se réveille, oui. Ça c'est bien, hein, que ça se... Mais je pense que c'est l'endroit qui manquait, c'est le bâtiment, la salle des fêtes, ça manquait sur la commune. Maintenant qu'on en est équipé...
Est-ce qu'il y a des familles avec des enfants scolarisés sur la commune ?
Oui. Non, moi je n'ai pas... Il y a quelques familles, on va dire, qui ont 4 ou 5 familles, quand même. Des enfants.
Et les enfants vont à l'école à quel endroit ?
Sainte-Eulalie, la cavalerie, puis après pour les grands c'est Sainte-Afrique ou Mio, c'est relativement bien, c'est dispatché quand même.
Et est-ce qu'il y a eu récemment de nouvelles installations sur la commune?
Récemment, eh bien, lui, il y a 2-3 jours, un couple dessus là, qui a fait un remplacement d'un couple qui est parti. On va dire, voilà. On a un appartement au-dessus de la mairie là, qui vient d'être reloué. À côté là-bas, il y a un appartement qui se dégage aussi. Il y avait un gars là qui vient de partir, hein, qui se dégage et qui sera loué si ça intéresse les personnes. Il y a le logement à la pelouse aussi. Hein,
d'accord, ouais, c'est bon à savoir.
Qui se libère. Hein.
D'accord. Voilà. Donc c'est la mairie qui est propriétaire de ces logements.
C'est la mairie.
Et qui les loue donc.
Voilà. C'est la mairie qui a fait les appartements dessus.
Et comment vous voyez évoluer la vie du village dans les années qui viennent,
on va dire. Écoutez, moi je parle pour comme quelqu'un que ça fait, on est installé à l'année depuis le 10e année. Et mon épouse, on a acheté il y a le 15e année, en 99. On s'est installé en 2004 à l'année. Et malheureusement, le village vieillit un peu. Il manque un peu de jeunesse. Qu'on retrouve un petit peu le week-end pour certains. Quand même, c'est grâce à ça que les associations marchent. Hein. Bon, quelques jeunes reviennent quand même au patelin le temps du week-end, les vacances. Mais dans la vie de tous les jours, quand même, il y a une dizaine d'années, là, on arrivait sur la place, il y avait 8-10 personnes des anciennes là, qui tenaient un peu la parole, qui discutaient entre eux. Là, on arrive à 1, 2, 3 personnes. Ils ne sont pas remplacés. Ils le seront par nous plus tard. Enfin, en attendant, je reconnais que ça. Mais malgré tout, quand même, l'espace de ces dernières années, c'est quand même installé, on va dire, 2-3 familles quand même supplémentaires. En fait, c'est pas ça, disons ça. On sent qu'au niveau des anciens, il y a quand même un truc qui se fait quand même. Hein. Il y a un truc qui se fait.
Et est-ce qu'il y a des maisons qui se vident, par exemple, ou
Alors les maisons ici, alors, ce sont les maisons de famille, hein, que les gens gardent. Même si elles ne sont ouvertes qu'une semaine ou 15 jours par an, il y a très peu de ventes, il y a très peu de. C'est les maisons de famille qui se gardent. Le village, il vit. Le village, il y a du monde, on va dire. Les maisons se remplissent pour la fête. 15 premiers jours d'août, les maisons se remplissent. Sinon, après le reste du temps, bon, c'est très calme. Ce qui n'empêche pas, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a une activité quand même.
Absolument.
Associative qui fonctionne très bien. Hein.
Oui, parce qu'il faut que.
Voilà, parce que les gens, quand même, vous voyez, l'autre jour, on a fait une paella, quand même, on a touché 93 personnes, quand même. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, je veux dire. 93 personnes, plus ou moins originaires du village. Toutes les soirées qu'on fait, que le comité des fêtes fait, ça fonctionne, il y a du monde. Donc, quand même, il y a quelque chose qui.
Il y a une vie dans le village.
Il y a quand même une vie dans le village, malgré comme on peut voir en ce moment, là, on les fêtes passées, je veux dire, ça va revenir, pour les fêtes de fin d'année, ça va revenir. Puis bon, janvier-février, ça va être calme. Par contre, 1er mars, ça redémarre la saison avec une soirée costumée. Samedi 1er mars, alors si ça intéresse à des personnes, on redémarre avec le comité des fêtes.
Très bien, merci beaucoup, monsieur Boissin. Laure Jacob, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé de mission milieu naturel, faune et flore au parc naturel régional des Grands Causses. Et donc, le parc est intervenu sur la commune de La Panouse de Cernon pour une action Natura 2000, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Alors, je peux simplement faire un petit rappel par rapport à ce qu'on appelle le réseau Natura 2000. C'est un réseau européen de sites qui représentent dans chacun des pays membres de l'Union européenne une biodiversité remarquable. C'est-à-dire que si on n'est pas européen, qu'on veut découvrir la biodiversité remarquable à l'échelle de l'Europe, on prend le réseau Natura 2000 en Europe et on a là à ce moment-là un échantillon parfait de tout ce qu'on peut trouver en Europe en termes de faune et flore remarquables. Et en l'occurrence, sur la Panouse de Cernon, on a donc le site qu'on appelle la Devèze, et qui est particulièrement remarquable et très connu depuis très longtemps, notamment par les botanistes, puisqu'il y a notamment la fameuse et recherchée et protégée aux frises de l'Aveyron. Donc c'est un des 19 sites du territoire du parc qui est inscrit à ce réseau Natura 2000, donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup pour le seul territoire du parc. Et sur ce site de la Devèze, une des particularités qu'on a pu justement valoriser et dont on a pu profiter, c'est le fait que cette Devèze est une parcelle communale.
Est-ce qu'on peut rappeler la signification du terme Devèze?
Alors je pense que monsieur le conseiller pourrait... Alors Devèze... Devèze, en fait, il y a...
C'est le terme défense, non?
Devèze vient en fait du terme de défense. Ce sont des zones qui, à l'origine, étaient mises en défense, c'est-à-dire réservées à un certain usage et pas pâturées, non pâturées, pour préserver justement cette zone-là. En l'occurrence, sur la Devèze de la Panousse de Cernon, si vous vous prenez un peu de hauteur en descendant de la route de la cavalerie, vous verrez face à vous cette Devèze, c'est le seul espace qui est encore ouvert. On va dire où il y a juste quelques petits piquetages de buis, de genévriers, mais c'est un espace qui vraiment apparaît très ouvert sur la vallée du Cernon de ce versant-là et qui est bordé de part et d'autre de forêts. Et c'est justement cette caractéristique très particulière du fait que cette Devèze, qui a toujours été utilisée d'ailleurs pour un usage de la commune, puisqu'il y a eu de nombreux usages, mais en résumé, ce qui est peut-être le plus frappant, c'est qu'à une époque, la commune y mettait les bœufs qui servaient pour les travaux des champs. Donc c'était utilisé vraiment un usage très particulier, pas pour produire de l'herbe ou nourrir des animaux de production, mais pour y mettre les bœufs quand ils n'étaient pas au travail. Voilà, en résumé, parce qu'il y a vraiment cette Devèze, c'est une histoire en elle-même, et voilà, pour laquelle, à laquelle la commune est très attachée, je le sais, et c'est ce qui a aussi motivé la commune pour essayer d'avancer dans les réflexions et des actions, comment on peut faire pour freiner la fermeture de ces milieux qui sont remarquables sur la Devèze et qui font qu'elle est réputée pour notamment la flore dont je parlais tout à l'heure, la flore liée au milieu ouvert, aux pelouses sèches, etc., et qui était connue depuis Coste et bien avant.
Ça signifie que le milieu était resté en partie ouvert ou qu'il y avait déjà un phénomène de reconquête de...
En fait, il y avait déjà un phénomène de reconquête par les arbustes dû plusieurs phénomènes. Alors bien sûr, ces milieux ouverts et ces pelouses qu'on appelle les pelouses sèches ne sont pas des milieux stables en quelque sorte. Hein. Il faut savoir que tout milieu naturel évoluera, ou qu'on soit sauf dans des zones extrêmement arctiques ou de haute montagne, vers la forêt. Donc on est vraiment dans un phénomène toujours de progression vers la forêt. Ça, c'est naturel. Par contre, ce qui est souhaitable sur ces genres de zones très riches d'un point de vue floristique, c'est d'essayer de maintenir des zones ouvertes, parce qu'il y a justement cette flore remarquable. Et un des moyens pour maintenir ouvert en partie cette zone ou d'essayer de garder cette biodiversité, c'est notamment d'y faire du pâturage. Alors la commune a loué cette parcelle depuis longtemps, notamment auprès d'un éleveur de vaches déjà à l'époque, mais qui n'était pas sur place, qui n'était pas là toute l'année, donc ça impliquait forcément un pâturage peut-être plus léger, moins intensif qu'il aurait pu l'être, et moins technique surtout, que ce qu'on a pu mettre en place avec ce contrat-là.
Donc ça signifie que c'est associé aussi au phénomène d'emprise, de déprise agricole?
Oui, ou du moins déprise, je ne dirais pas forcément, puisque c'est une zone qui a finalement toujours été utilisée, peu ou prou, hein. Mais c'est ce qui manquait sans doute à l'époque, c'est le nombre d'animaux, la durée de pâturage par ces animaux, à la fois dans l'année et puis à certaines périodes, et surtout le fait de pouvoir avoir une technique de pâturage, encore c'est fondamental pour ces secteurs de milieux ouverts très dynamiques, on va dire, qui évoluent rapidement, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai une grande surface, comment je l'analyse, les animaux, comment je souhaite qu'ils progressent dans cette zone-là, pour à la fois préserver cette flore remarquable dont j'ai parlé au début, qui vraiment, bah, vous en doutez, c'est quand même une des bases de l'alimentation des vaches, elles mangent aussi ces flores remarquables, donc il faut trouver le bon moyen et la bonne période pour les faire manger ces plantes. Donc c'est pour ça, j'anticipe peut-être un peu, mais le travail qui a été très intéressant et remarquable ici, c'est un travail conjoint entre les élus de la commune qui souhaitaient faire quelque chose pour améliorer, on va dire, la Devèze en termes de milieu ouvert, à la fois pouvoir renforcer du pâturage, hein, par des animaux et maintenir vraiment d'une manière fondamentale ce qu'on appelle le multi-usage de l'espace. J'ai parlé des botanistes. Sur cette zone-là, ce qui est très très intéressant et pour le parc c'est fondamental, c'est que c'est une zone qui n'est pas fermée au public. Il y a les vaches, certes, aujourd'hui, comme il y en a eu depuis très longtemps, mais il y a aussi des chemins de randonnée, des botanistes du monde entier, au moins de l'Europe entière, qui viennent voir ces fleurs au printemps, donc mai-juin. Et puis, il y a aussi les chasseurs qui viennent. Il y a d'autres activités on va dire, très liée à la vie de la commune qui se passe sur ce site-là. Donc il fallait absolument préserver tout ça. Et le travail de concertation en amont de tout ce qu'on verra après, ce qui a été mis en place, c'est justement de pouvoir réunir à la fois des techniciens de la chambre d'agriculture, les botanistes, voilà, les élus et puis les services de l'État, puisque c'est eux qui finalement ont payé aussi parce qu'il faut parler un peu d'argent.
Donc vous nous avez parlé de biodiversité, de flore remarquable. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples des espèces qu'on peut trouver sur le site ?
Alors ce qui est surtout remarquable et recherché entre guillemets sur ce genre de zone, ce sont les orchidées. Alors il y a certaines espèces qui sont rares et protégées, comme l'offrice de l'Aveyron par exemple dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'autres espèces d'orchidées. Et en général, toutes les fleurs liées au milieu ouvert. Alors, il y a des lins, il y a des petites espèces, hein, souvent qui sont très discrètes, hein, plus que des espèces remarquables par leur taille. Mais les botanistes qui viennent là sont en général des amateurs éclairés et de plus en plus photographes. Et souvent, vraiment, c'est des éléments très esthétiques qui, évidemment, d'une année sur l'autre, fleurissent pas forcément toujours à la même période. Ça dépend de la météo, etc. Mais vraiment, je pense que ce qui est le focal ici, c'est les orchidées. Hein. C'est vraiment l'image de la Devèze. Entre des espèces rares ou plus communes, mais même ce qui est commun, c'est vrai qu'on le dit souvent, ça, ce qui peut paraître commun ici ou sur le territoire du parc est quand même rare au niveau français ou européen. Pour les botanistes, c'est vraiment très très intéressant.
Et est-ce qu'on voit cette flore évoluer en fonction des changements qui se produisent aujourd'hui ?
Alors après, par rapport aux équipements qui ont été mis en place sur la Devèze, donc pour préciser ce qu'on a pu mettre en place grâce à Natura 2000, comme je le disais précédemment, le travail a consisté à faire un repérage de la Devèze, des zones qui étaient les plus riches par rapport à la flore remarquable, de manière à pouvoir les faire pâturer après la floraison. Quand les plantes ont grainé, ont fleuri, on peut se dire que là, les vaches peuvent manger, ça ne gênera pas la reproduction ultérieure pour la majorité des espèces. Donc, on a pu mettre en place donc, des clôtures pour refendre, recouper ce grand territoire qui est la Devèze, tout de même, puisque ça fait plus de 250 hectares. Donc, il a fallu faire ce qu'on appelle des refends, c'est un terme technique, mais vraiment lié au pâturage, avec des clôtures électriques et également des passages qui permettent justement, comme je l'ai dit, aux piétons de pouvoir passer sans prendre l'électricité et puis de refermer tranquillement derrière eux sans gêner le pâturage des animaux. Donc, en fait, c'est un parcours. On a divisé toute cette zone de la Devèze en plusieurs secteurs qui sont pâturés successivement au cours de l'année, qui permet de ne pas gêner la reproduction des plantes remarquables et qui, par le passage des animaux, par le fait que les animaux pâturent certaines plantes, puis au fur et à mesure d'autres, les vaches ont permis d'ouvrir le milieu un peu plus. Les endroits qui sont broussaillés ben, le sont un petit peu moins, par le piétinement, par le fait qu'elles mangent finalement quand même petit à petit. Et du dire des botanistes que j'ai l'occasion de rencontrer régulièrement et de l'agriculteur qui a en charge, on va dire, cette Devèze avec son troupeau de vaches, on observe une nette amélioration justement de la flore et de l'ambiance, on va dire, de ce milieu remarquable.
Est-ce qu'on peut parler de la programmation de l'action, de la genèse du projet ? Comment se sont engagées les différentes actions, les partenariats ?
Alors, l'avantage de cette action Natura 2000, donc, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle un contrat Natura 2000, c'est une possibilité offerte aux propriétaires communaux, enfin des zones qui n'appartiennent pas à des agriculteurs, mais qui peuvent bénéficier d'aide de l'État et de l'Europe pour justement aider à préserver cette biodiversité remarquable. Donc, la Devèze étant la parcelle communale idéale pour mener ce genre d'action, les services de l'État nous ont donc conseillé, la commune, le parc qui est animateur de ce site Natura 2000, et puis les botanistes et les techniciens concernés, pour mettre en place ce contrat. Donc il y a plusieurs phases. D'abord un état des lieux, à la fois botanique, pour lequel on a eu l'aide du Conservatoire botanique de Midi-Pyrénées, l'aspect pastoral, donc le pastoraliste de la chambre d'agriculture qui a travaillé de son côté, et on a croisé ça, donc comme je le disais tout à l'heure, avec les enjeux floristiques et la période à laquelle effectivement il est bon de faire pâturer ou d'éviter de faire pâturer. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des compromis, puisqu'il faut prendre en compte aussi la possibilité d'alimenter en eau, parce que les vaches, évidemment, elles boivent, comme tous les animaux. Donc il y avait cette contrainte également, de l'eau, de la période de floraison, des sentiers à respecter, de la période de chasse à aussi prendre en compte dans le travail. Donc tout ça a donné lieu à plusieurs réunions sur le site, directement sur place, à la commune. Tout ça pour aboutir à un dossier, à un cahier des charges, qui est joint à une demande de financement, qui correspond, laquelle demande de financement donc, est faite par la commune, puisque c'est un contrat qui est établi entre la commune et l'État. Le parc n'a que le rôle de conseil et d'animateur là-dedans. Et ce contrat donc, permet à la commune de bénéficier intégralement du remboursement des équipements qui ont été effectués sur ce site-là. Donc c'est quand même une opération très intéressante qui permet de parler de tous ces enjeux en même temps. Vraiment, ce qui est fondamental dans ces actions-là, c'est de pouvoir faire prendre conscience aux uns et aux autres que les enjeux ont été pris en compte dans la mesure du possible. Voilà, les fleurs, on ne les fait pas pâturer à cette période-là. C'est peut-être moins intéressant pour le fourrage en termes alimentaires. Ce sera peut-être moins riche à cette saison-là. Mais tant pis, il faut prendre en compte cette dimension-là. Voilà, il y a des chemins de randonnée, on aurait voulu faire une clôture à tel endroit, ben c'est pas possible, on la recule un petit peu parce qu'il y a le chemin, etc., etc.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé de rotation, enfin je ne sais pas si le terme est exact, pour les pâturages. Comment est-ce que ça se passe avec l'éleveur?
Alors, vous faites bien de me le dire, l'éleveur est évidemment le premier intégré à ces groupes de concertation. Il se trouve qu'en l'occurrence, c'est un éleveur qui était impliqué dans la commune, donc effectivement, il a été le premier concerné par ce travail-là. La donnée de base étant effectivement combien d'animaux et quel type d'animaux il souhaitait mettre sur la Devèze. Hein. Donc ça, c'était fondamental pour effectivement que l'agriculteur s'engage, puisqu'effectivement, il y a un cahier des charges pour la commune et des engagements de l'agriculteur qui va bénéficier de ces équipements, parce que quelque part, effectivement, il a la chance de pouvoir bénéficier, ce qui est quand même très rare, de clôtures, d'aménagement, de points d'eau, etc., ce qui est unique dans une exploitation, en quelque sorte. Donc, effectivement, l'agriculteur s'engage, alors, bien sûr, à gérer les parcelles correctement, entretenir les clôtures, et puis, par exemple, à ne pas faire de fertilisation, à ne pas travailler le sol. Enfin, voilà, il y a toute une liste d'engagements qui concernent à la fois le matériel, le sol, la flore et chacun s'engage de son côté. Voilà.
Et en dehors du pâturage, il n'y a pas de pratique culturelle qui entre en jeu sur le territoire de la Devèze?
Non. Alors, dans certains secteurs, on a pu, et sur la Devèze, on l'avait fait il y a quelques années, donc par l'équipe d'agents d'entretien du parc, on avait souhaité rajeunir, entre guillemets, débroussailler certains secteurs pour essayer d'expérimenter à la fois des techniques de débroussaillage et de voir un petit peu ce que ça pourrait donner pour anticiper la venue du troupeau. En fait, on s'est aperçu que ces travaux-là n'étaient pas forcément couronnés de succès, on va dire, dans le temps, et que finalement, il aurait peut-être pu simplement valu attendre que le troupeau arrive et qu'il fait son travail naturellement. Ça, c'est une démarche vraiment très... Alors, il n'y a pas de culture, bien sûr, pour répondre à la question, il n'y a pas de culture. Ce qui aurait pu être tentant, comme ça l'est dans beaucoup de secteurs, mais nous, on ne l'a jamais fait, c'est de débroussailler pour ouvrir le milieu, de se dire on y met les bêtes ensuite, et elles vont maintenir. C'est souvent une fausse bonne idée, comme on dit, parce qu'il faut laisser faire les animaux. Ils font ce qu'ils peuvent avec leur capacité alimentaire et leurs pattes. Et puis, il faut être patient et ne pas, faire du débroussaillage avant de mettre les bêtes, mais plutôt l'inverse. Et puis après, pourquoi pas, dans quelques années, si l'agriculteur a des idées ou avec son observation et le suivi de son troupeau... à quelques petites propositions de travaux à faire, il aura toute légitimité pour le faire, si c'est justifié par rapport à la biodiversité du site.
Donc cette action qui a été menée sur la Devèze de la Panousse de Cernon, on imagine qu'elle est reproductible ailleurs?
C'est tout l'enjeu de ce site-là, vraiment, une action qu'on a menée qui était, on va dire, expérimentale sur le territoire du parc, qui est assez modèle même en région Midi-Pyrénées, parce qu'il y a très peu de contrats de ce type-là, et que nous ne souhaitons que reproduire. Vraiment, l'État est tout à fait intéressé par cette action-là. La seule difficulté, c'est de trouver effectivement une zone qui soit communale, c'est en termes de statut, simplement de statut juridique, c'est très important, parce que ça ne peut pas être une zone qui soit dite agricole. Donc les communes, effectivement, sont rarement propriétaires de zones de ce type-là qu'elles peuvent mettre à disposition d'un éleveur pour le pâturage et qui ne le soit pas déjà, on va dire, sous ce statut agricole. Donc c'est assez difficile en termes de statut simplement. Mais on en fait vraiment beaucoup la promotion de cette action-là parce qu'elle est très intéressante. Beaucoup d'étudiants de lycée agricole viennent découvrir ce que c'est que ces contrats Natura 2000 et pourquoi pas les reproduire chez eux. Alors je mettrai quand même d'ajouter un détail, c'est que ce genre de contrat qu'on appelle contrat Natura 2000 sont donc bien dans ce statut particulier, contrat entre une commune et, ou un propriétaire et l'État. Il existe par ailleurs d'autres contrats qu'on appelle les MAET, les mesures agro-environnementales, dont il faut quand même évoquer la chose, qui ont le même objet, c'est-à-dire maintenir la biodiversité dans des sites Natura 2000 par le pâturage. La différence, c'est que là, on est donc dans le cadre d'une exploitation agricole classique, je dirais, notamment sur les causses, dans les sites Natura 2000, où c'est l'éleveur qui met en place les clôtures, les points d'eau, le cahier des charges pour lequel il s'est engagé. C'est lui-même qui le fait. Le résultat, il est, pour la biodiversité, en théorie, c'est le même objectif qui est recherché. Hein. Mais l'entrée est différente. On est plus dans une entrée agricole, agri-environnement, comme les agriculteurs le connaissent depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un peu différent. Mais effectivement, on incite les communes à réfléchir à ce type d'action, on est prêt à les aider.
Merci beaucoup, Laure Jacob, pour cette présentation de la Devèze de la Panousse de Cernon et pour toutes ces explications.
Nous nous rendons à présent sur le site de la Devèze où M. Boissin nous parle du système d'alimentation en eau aménagé pour abreuver les vaches au pâturage.
Il y a un tuyau là qui la canalise jusqu'à un réservoir là au-dessus. Là. Et de ce réservoir, elle est distribuée là. Et ce qu'ils ont fait, ils ont fait les pâtures en fin de compte. Du réservoir par un tuyau qui est à peu près parallèle à dire, avec une légère descente, bien sûr, qui traverse tous les pâturages là, dans ce sens-là, là, comme on a pris nous. Là. Et qui alimente des réservoirs. Ils ont mis des réservoirs en plastique et qui alimentent des réservoirs. D'accord. Et là-haut à la cime, de l'autre côté, là, sur l'autre paysan, là, de l'autre côté, là, dans le trou, là, dans le début du ravin de la Ségala, ça, ils ont fait un réservoir bâché, là, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, là. Ils ont creusé, là, ils ont mis de l'argile, là, ils ont mis des bâches noires, là, là. Ils ont fait un réservoir d'eau. Quand ça fait orage, ça le remplit, là, avec un tuyau à la base qui part et qui va alimenter, bon, il n'y est pas le réservoir, hein, mais qui va alimenter le réservoir. Là, ils l'ont mis en cas de nécessité, quand ils sont parqués là-bas, l'été, là, qu'il n'y a pas d'eau, là, qu'ils ne peuvent pas venir là. Après, jusqu'à maintenant, ils se sont débrouillés pour qu'elle vienne jusque-là, quand même. Et jusqu'à maintenant, disons, il y a toujours eu ouverture pour qu'ils viennent là au réservoir. Alors.
Parce que là, c'est une source qui alimente là.
Oui, c'est la source qui alimente. C'est une source qui alimente. Là. C'est une source qui tire dans le creux de la ravine là-bas. Là. Et à partir de là, il y a les chemins de randonnée qui partent. C'est joli. Hein. Il y a de l'autre versant là-bas une grotte qu'ils appellent la grotte des Matizards. Il y a plein de chemins. On peut circuler sur le plateau, on peut aller au-dessus de Roquefort, et tout le plateau, on peut faire.
C'était Une autre vie s'invente ici, à La Panousse de Cernon. Au prochain numéro, nous découvrirons un nouveau village et une autre action menée en collaboration avec le Parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du Parc naturel régional des Grands Causses.